Le journal de 18h, César Yao.
Bonsoir à tous, voici le sommaire de ce jeudi 18h. Le président de la Fédération ivoirienne de football a fait mardi 3 propositions au chef de l'État sur la gestion et la préservation des infrastructures sportives telles que les stades, les terrains d'entraînement et les sites CAN. Et ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres d'hier mercredi, au cours duquel Alassane Ouattara a demandé au Premier ministre Robert Beugré Mambé d'examiner les 3 propositions d'Idriss Diallo. Les fêtières et syndicats de la filière cacao viennent d'exprimer leurs préoccupations suite à l'embellie du prix du kilogramme de cacao constaté sur le marché international. Dans ce jeudi 18h, les explications de Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès dans le pays. Dans l'actualité internationale au Sénégal, une semaine après le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024, des échanges ont eu lieu aujourd'hui par l'intermédiaire du facilitateur Pierre Goudiabiatepa entre le pouvoir et l'opposition. La société civile prévoit, elle, de nouvelles manifestations dans les prochains jours. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Préservation des infrastructures de la CAN 2023 en ouverture de ce jeudi 18h. Au cours de la cérémonie d'hommage aux éléphants mardi dernier, Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a fait 3 propositions au chef de l'État sur la gestion et la préservation des nombreuses infrastructures telles que les stades, les terrains d'entraînement et les sites CAN. Et ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres d'hier mercredi, au cours duquel le président de la République a demandé au Premier ministre Robert Beugré Mambé de prendre les mesures utiles pour assurer la bonne gestion de ces infrastructures en examinant les 3 propositions du président de la FIF. On écoute Alassane Ouattara.
Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soient une priorité immédiate. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. Je demande à M. le Premier ministre d'examiner les 3 propositions faites par le président de la FIF afin que ces infrastructures soient préservées et servent notre jeunesse et le football ivoirien. Le président de la Fédération ivoirienne de football avait fait 3 propositions. La première concerne la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures afin que l'héritage de la plus belle CAN que nous avons organisée soit préservé et serve le football ivoirien et pourquoi pas continental. Deuxièmement, que la transformation des cités CAN en pôle de développement sous-régional puisse être réalisée. Et troisièmement, la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. Ceci, bien sûr, est déjà en cours.
Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, également, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, a déclaré l'année 2023 l'année de la jeunesse. Ainsi, le gouvernement a mis en place le programme jeunesse du gouvernement PJGOV 2023-2025 d'un coût estimatif de 1118 milliards de francs CFA avec 3 axes majeurs, à savoir l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement citoyen, de l'éthique sociale de la jeunesse et puis l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Au terme du Conseil des ministres d'hier mercredi également, le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a fait le point partiel du PJGOV 2023-2025. Nous l'écoutons.
Au 31 décembre 2023, les initiatives entreprises dans le cadre du PJGOV, ont permis d'impacter directement 1,1 million de jeunes, de sensibiliser 8,2 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et de construire ou réhabiliter 112 structures de formation et d'infrastructures de jeunesse. L'ensemble de ces réalisations a nécessité un investissement de 535,8 milliards de francs CFA, dont 360,5 milliards de francs CFA pour les constructions ou réhabilitations d'infrastructures, 173 milliards de francs CFA pour les initiatives d'accompagnement direct des jeunes vers l'emploi et l'autonomie, et 2,4 milliards de francs CFA pour les actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes.
Voilà, c'était le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien. Les fêtières et syndicats de la filière cacao viennent d'adresser une missive à leur ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture. Objectif, examiner, exprimer précisément leurs préoccupations de l'heure consécutive à l'embellie du prix du kilogramme de cacao constaté sur le marché international. Là-dessus, écoutons Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès dans le pays.
Ce courrier est quand même lié à la situation de prix actuel du cacao. Mais aujourd'hui, on constate que le prix est monté sur le marché mondial. Malheureusement, le constat est que le producteur reçoit toujours que 1000 francs. Pendant qu'on parle de 5000 francs à l'international, mais l'État nous donne 1000 francs.
Comparé à quelques pays africains, comparé au Ghana et au Cameroun.
Mais je compare au Ghana
et au Cameroun.
Aujourd'hui, qu'on parle officiellement de 1200 et quelques, je parle de Cameroun qui a 2000 et quelques, la Guinée qui n'a même pas au 1 pour le pays producteur officiel aujourd'hui qui est 2200 francs, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'État puisse quand même nous donner que 1000 francs pendant que les autres pays sont en train de s'enrichir.
C'est la question que vous avez posée au ministre à travers votre courrier.
Oui, ben on a demandé, mais on allait plus loin puisqu'on a demandé une relecture quand même de texte de cette prix garanti qui n'a jamais été garanti même d'ailleurs. Les gestionnaires n'ont pas de plantation. L'État lui-même n'a pas de plantation. Mais c'est l'État qui fixe le prix de cacao comme si les plantations sont étatiques. Les plantations ne sont pas étatiques.
Est-ce que vous, les producteurs, vous n'êtes pas consulté avant la fixation des prix?
Pas du tout. Nous, on est associés à rien du tout.
Voilà, Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, était avec Constant Maïlé. Autre chose dans ce journal, saine utilisation des réseaux sociaux, le Repressi, réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, sensibilise les jeunes. La première séance a eu lieu dans plusieurs villes du pays du 9 février, prend fin aujourd'hui jeudi. Sur les motivations de cette initiative, écoutons celui Kaofi, journaliste à l'agence France Presse formateur Repressi, n'est-ce pas, pour ce projet.
Cette initiative répond à un seul objectif. Il s'agit pour nous d'informer la jeunesse ivoirienne sur la saine utilisation des réseaux sociaux et de leur donner plus d'informations sur ce qui est possible pour eux de dire ou de ne pas dire sur les réseaux sociaux. Alors quand nous parlons de saine utilisation des réseaux sociaux, il va sans dire que dans ce package nous mettons la loi sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, les discours de haine et bien entendu les fausses informations. Nous les sensibilisons donc à avoir recours à des plateformes qui sont crédibles pour pouvoir s'informer, mais également éviter certains propos qui sont par exemple de nature injurieuse sur les réseaux sociaux afin que ces propos qu'ils tiennent aujourd'hui dans leur jeunesse ne puissent pas les rattraper demain. Parce que ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux reste et peut servir demain contre eux lorsqu'ils vont vouloir chercher un emploi.
Cette initiative, c'est pour les orienter ou parce que des remarques ont été faites, des débordements sont constatés dans l'utilisation donc de ces réseaux sociaux par ces jeunes?
C'est qu'on a remarqué que beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens avaient cette coutume-là de partager des photos d'eux sur les réseaux sociaux, soit certaines vidéos osées. Les jeunes s'adonnent à des insultes. Il était important d'aller vers ces jeunes-là pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se retrouver sur le coup de la loi. Parce qu'une fois au bureau du procureur, l'expression « je suis jeune » ou « je ne savais pas » n'a plus cours, étant donné qu'il y a des peines privatives de liberté et des amendes pécuniaires qui sont liées à tous les délits en ligne.
Voilà, c'était celui Kaofi, journaliste à l'agence France Presse formateur Repressi, qui est le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, joint par Junior Cardin. Affaire gestion de 5% de part sociale au guichet unique du foncier, le ministère de la Construction crie à la diffamation et saisit le procureur de la République. Les journalistes poursuivis dans cette affaire se défendent d'avoir fait fait leur travail d'informer. Ils vont même plus loin en citant leur source qui n'est autre qu'un syndicat des agents du ministère de la Construction. Là-dessus, écoutons notre confrère Dosso Villa, directeur des rédactions du quotidien Le Panafricain, un des deux journalistes poursuivis.
Le ministère de la Construction a dit qu'il y a eu diffamation. Moi, il a dit, mais il n'y a pas de diffamation. On n'est pas de diffamation que lorsque on écrit contre quelqu'un sans prendre son avis. Tout est parti même d'un courrier du Premier ministre, d'alors Daniel Clément Duncan, qui date du 1er août 2013, qui demande à tous les départements ministériels qu'il y ait une traçabilité de l'argent qui rentre ou qui sort au niveau des ministères. Et au niveau du ministère de la Construction, il y a le guichet unique du foncier où il y a des transactions qui se font. 5% des parts sociales sont considérées comme une caisse noire. Des syndicalistes qui suivent cette affaire-là de près, ce sont des agents même du ministère de la Construction qui ont envoyé des courriers au président de la République. Ça a été dénoncé par les agents du ministère de la Construction. Muni de ce courrier-là, qui estime qu'il y a au moins 100 milliards de francs CFA qui ont été engloutis dans le noir par le guichet unique du foncier à travers une pratique douteuse, selon eux.
Donc, vous avez été entendu. Qu'est-ce qui a été décidé?
Le ministère a saisi l'ANP, l'ANP nous a blâmé sur la forme, mais pas sur le fond du dossier. On va mettre du temps. Mais, insatisfaits, ils sont saisis encore le procureur de la République, le ministre de la Constitution, à travers son directeur de cabinet. Donc, le procureur a envoyé un sort de à la gendarmerie pour nous entendre. Nous avons entendu avec toutes les preuves, tous les éléments, donc fournir tous les éléments à la gendarmerie. Donc, là-bas, est maintenant dans le camp du procureur de la République.
Voilà, c'était Dosso Villa, directeur des rédactions du quotidien Le Panafricain. Également, un des deux journalistes poursuivis était avec Constant Maillet. Le Conseil exécutif de l'Union africaine constitué des ministres des Affaires étrangères a entamé hier mercredi à Addis Abeba en Éthiopie les travaux de sa 44e session ordinaire en prélude au 37e sommet de l'Union du 17 au 18 février à la cérémonie d'ouverture des travaux. Dohir Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères des Comores et président d'exercice du comité du Conseil exécutif de l'Union africaine a prononcé son discours d'orientation des travaux. Junior Cardin revient ici sur l'essentiel du contenu de cette allocution.
Pour son allocution de lancement des travaux, Dohir Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores et président en exercice du Conseil exécutif de l'Union africaine, a déploré, et je cite, « une épidémie de changement anticonstitutionnel qui a secoué le continent ces deux dernières années, mettant à rude épreuve le progrès en matière de démocratie observé jusqu'ici en Afrique ». Fin de citation. Il a ajouté à cette équation le fait que la CEDEAO soit aujourd'hui confrontée au retrait de trois de ses États membres, fragilisant ainsi le processus d'intégration économique du continent. Faisant allusion au Mali, au Niger et au Burkina Faso, où, selon ses propos, les transitions politiques semblent s'enliser. Dohir Doul Kamal exhorte la CEDEAO à entamer des discussions franches avec ses trois États membres pour sortir rapidement et par le haut de cette situation dommageable aux deux parties. Malgré ce tableau peu reluisant de la situation générale de l'Afrique, le président en exercice du Conseil exécutif a exprimé sa fierté des progrès substantiels réalisés en 2023, notamment la défense des intérêts supérieurs de l'Afrique à la COP28, les avancées positives enregistrées dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de la ZILECAF. La présente session est appelée à se pencher sur les questions majeures, entre autres la note conceptuelle et la feuille de route du thème de l'année 2024 portant sur l'éducation, la participation de l'Union africaine au G20, le projet de cadre stratégique et le projet de cadre d'orientation pour les partenaires. Pour finir, Dohir Doul Kamal a invité ses pairs à examiner ces différents points dans un esprit positif pour parvenir à des délibérations tangibles. Notons que le 37e sommet de l'Union africaine se tient les 17 et 18 février à Addis Abeba en Éthiopie et la Côte d'Ivoire y sera représentée par le vice-président Tiemoko Meile Kone.
Voilà, c'était cette analyse de Junior Cardin. Future monnaie des pays de l'Alliance des États du Sahel, parlons-en. L'idée est en réflexion selon les informations communiquées dimanche dernier par le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, qui dans une interview a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Mali et le Burkina Faso pour, dit-il, sortir ces trois pays de la colonisation. Quelles sont les conditions à respecter pour la création de cette future monnaie? Des précisions avec professeur Yao Prao Serafin, enseignant en économie et spécialiste des questions monétaires à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
il y a, à mon humble avis, quatre conditions qu'il faille respecter. La première condition, c'est la condition économique. Il faut que ces pays-là, en tout cas, enregistrent des taux de croissance positifs. En regardant quand même les chiffres, au Mali, par exemple, en 2023, le taux de croissance, il est de 5,1%. 5,3% projeté en 2024. Vous prenez le Burkina Faso, en 2023, c'est 4,3% et projeté pour 2024 à 4,8%. Quand vous prenez le Niger également, en 2023, je mets un taux de croissance de 6,9%. Mais vous savez, dans tous les cas, quand on crée une zone monétaire, c'est la volonté politique qui prime. Donc, il peut y avoir des soutiens forts de la Chine, de la Corée du Nord, etc. Il y a une deuxième condition, c'est la condition technique. La condition technique, c'est de dire, mais d'abord, c'est quel régime de change que nous allons arrêter? Quelle est la politique monétaire? Comment on va l'amener? Est-ce qu'il y aura des spécificités propres à chaque pays comme on le fait dans l'UEMOA actuellement? Qui va gérer la banque centrale de ces trois pays? Et puis après, cette monnaie, elle sera fabriquée où? Comment avoir des monnaies sécurisées, les monnaies peu falsifiables? Troisième condition, c'est la condition sécuritaire. La condition sécuritaire, c'est que nos frères traversent des moments difficiles, vous le savez. Il y a cette dimension-là qu'il faut quand même prendre vraiment en compte. La quatrième condition, c'est l'adhésion des populations. Vous ne pouvez pas créer une monnaie si la population n'est pas d'accord. C'est pourquoi moi, je préfère qu'on soit dans une union plus large. Parce qu'aujourd'hui, la tendance mondiale, c'est l'élargissement des unions pour que nous soyons forts.
Voilà, c'était professeur Yao Prao Séraphin, enseignant en économie et spécialiste des questions monétaires à l'Université Alassane Ouattara à Déboaké, joint par Jean-Claude Comé. Dans l'actualité internationale au Sénégal, des efforts sont en cours pour trouver une sortie de crise. De son côté, la société civile compte se faire entendre avec de nouvelles manifestations. Aujourd'hui, jeudi matin, le mouvement des détenus a tenu une conférence de presse au siège d'Amnesty International à Dakar. Il dénonce environ 250 arrestations abusives lors des dernières manifestations qui ont suivi l'annonce du report de l'élection présidentielle et il appelle donc à manifester le 17 février après-midi avec le collectif des familles des détenus politiques. Une autre marche est prévue le même jour, samedi matin, par la plateforme de la société civile Arsenou Élections, protégeons notre élection pour réclamer la tenue des élections avant le 2 avril prochain qui marque la fin du mandat du président Macky Sall. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel de l'essentiel. Le président de la Fédération ivoirienne de football a fait mardi trois propositions au chef de l'État sur la gestion et la préservation des infrastructures sportives telles que les stades, les terrains d'entraînement et les cités CAN. Et ces propositions étaient au menu du Conseil des ministres d'hier mercredi au cours duquel Alassane Ouattara a demandé au Premier ministre Robert Beugré-Mambé d'examiner les trois propositions d'Idriss Diallo. Les fêtières et syndicats de la filière cacao viennent d'exprimer leurs préoccupations suite à l'embellie du prix du kilogramme de cacao constaté sur le marché international. Dans ce 18h, vous avez eu les explications de Koné Moussa. C'est le président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Enfin, dans l'actualité internationale au Sénégal, une semaine après le report de la présidentielle, du 25 février au 15 décembre 2024, des échanges ont eu lieu aujourd'hui matin par l'intermédiaire du facilitateur Pierre Gwabiadi Atepa entre le pouvoir et l'opposition. La société civile prévoit, elle, de nouvelles manifestations dans les prochains jours. Fin de ce jeudi 18h sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous de l'information demain vendredi 7h. Tout de suite, le magazine Santé pour tous avec Paul Bénédicte Bolou.
Santé pour tous. Santé pour tous. Les experts de la santé.